Aujourd'hui, donc, nous recevons le professeur Denis Pumin, qui est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de géographie, docteur ès lettres en sciences humaines, professeur de géographie à Paris 1 de 1989 à 2000. Depuis février 2000, elle est recteur de l'Académie de Grenoble et elle a dirigé entre 1992 et 2000 une unité de recherche géographie cité associée à la fois au CNRS, à l'Université de Paris 1, de Paris 7 et l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Elle est spécialiste donc de la géographie des villes et de leur modélisation et elle a publié de nombreux ouvrages autour de ce sujet, dont La dynamique des villes chez Economica en 1982, Ville et auto-organisation chez Economica toujours en 1989 et Le système des villes européennes paru chez Anthropos dans la collection Ville en 1994. Je vous remercie et je lui laisse la parole.
Merci. Sous le titre un peu vaste peut-être, Le devenir des villes et la modélisation. Je vais essayer d'aborder un certain nombre de questions en 6 points, en commençant par préciser ce que on entend par système de ville, qui est un concept développé essentiellement par les géographes et par certains spécialistes de l'aménagement du territoire, et qui, par rapport à l'approche classique qu'on a de la ville, aura de son paysage ou des plans d'urbanisme, invite à changer d'échelle et à... Non, je vais peut-être laisser le... Voilà, je vais laisser le papier blanc dessous. C'est... À changer d'échelle, donc, à regarder d'avion ou de satellite, comme cette image restituée par Corinne Landcover, des surfaces bâties, qui montre un semi-urbain bien distribué sur l'ensemble du territoire. On peut le regarder plus en détail en grossissant le trait, comme par exemple ici dans la région comprise entre Lyon et Dijon, et on observe des dispositions des villes qui certes traduisent certaines irrégularités de l'espace géographique comme les vallées, la présence des montagnes qui sont des obstacles, mais qui dans l'ensemble montrent une assez grande régularité dans la disposition des villes, les plus grandes villes étant plus espacées, les petites villes plus nombreuses et plus rapprochées. Cette disposition, on l'observe par exemple sur cette carte, donc cette fois-ci construite à partir des chiffres de population des villes européennes à la fin des années 90, avec des cercles proportionnels à la taille des villes, et qui montrent qu'on a une présence du fait urbain dans toutes les parties du territoire, une disposition spatiale dont on peut analyser la régularité, par exemple, des espacements des villes. Ici, une carte élaborée par Céline Rosenblatt nous montre quelles sont les grandes villes de plus de 100 000 habitants situées à moins de 100 km les unes des autres. On observe qu'elles peuvent être plus denses dans certaines parties de l'Europe, comme les régions rhénanes ou le centre des îles britanniques. Elles sont disposées beaucoup plus régulièrement dans l'Europe de l'Est et présentent plus d'irrégularités dans la partie occidentale. On a un peu le même schéma si on regarde la disposition des villes plus petites en reliant par un trait celles qui sont situées à moins de 25 km les unes des autres. Alors, ces dispositions d'espacement assez régulier des villes incitent à se poser des questions sur ce qui a amené à la fois leur très grande diffusion dans le territoire et en même temps certaines régularités de leur position relative. Cette disposition-là a été perçue assez tardivement et finalement expliquée de manière très intuitive par trois points de vue différents. L'un qui considérait que les villes avaient pour rôle d'encadrer et de couvrir un territoire. Et par exemple, on trouve au XVIIIe siècle des réflexions comme celle de Cormontaigne, mais aussi d'autres, sur la disposition optimale des places fortes permettant de protéger, de défendre un territoire. Une autre idée pour expliquer la régularité des villes est celle de qui consiste à les considérer comme des étapes sur des voies de circulation et chaque étape étant bien sûr séparée de la précédente par la longueur d'une journée de marche. C'est par exemple ce qu'indiquait Élisée Reclus. Et puis d'autres travaux ont souligné qu'il y avait en fait entre les villes des relations nombreuses, variées, d'échanges, d'informations, de personnes, de matières premières, de production, qui font que leurs évolutions sont conditionnées les unes par les autres et amènent la construction d'un système complexe, considéré parfois comme un organisme dans les premiers travaux et qui fait aujourd'hui l'objet de modélisation. Alors ces formalisations de la notion de système de ville sont apparues assez tardivement dans la littérature scientifique. Les premiers écrits ont essayé de rendre compte de la disposition dans l'espace géographique de la taille et de l'espacement des villes. Et on trouve ces réflexions associées aux travaux des aménageurs du territoire, des constructeurs des réseaux de chemin de fer, comme par exemple le Saint-Simonien Jean Reynaud, dans un article Ville de l'Encyclopédie Nouvelle de 1841, qu'a retrouvé récemment Marie-Claire Romic, ou encore dans les communications à l'Académie des sciences de Léon Lalanne, sur les lois de l'équilatérie et des distances multiples, où Léon Lalanne s'amuse à observer que les villes sont disposées régulièrement au sommet de triangles équilatéraux et que la distance qui sépare les chefs-lieux de canton, par exemple, est environ le tiers de celle qui sépare les chefs-lieux d'arrondissement, qui est elle-même le tiers de celle qui sépare les chefs-lieux de département. Mais c'est vraiment le nom du géographe allemand, géographe économiste allemand Walter Kristaller, qui est associé à ce qu'on a appelé la théorie des lieux centraux, dont je vais parler maintenant, et à des modèles géométriques représentant cette trame régulière des systèmes de villes. Alors Walter Kristaller avait systématiquement représenter ces dispositions régulières sous forme de treillis triangulaires qui, vous le voyez, couvraient toute l'Europe. Mais pour l'essentiel, il a indiqué que une ville, c'était d'abord un lieu central qui avait pour fonction d'offrir un certain nombre de biens et de services à ce qu'il appelait sa région complémentaire. Cette région complémentaire comprend donc l'ensemble des clients qui viennent s'approvisionner dans la ville et qui sont disposés pour se procurer un certain type de biens ou de services à parcourir une certaine distance qui va être d'autant plus courte que le recours aux biens ou aux services est fréquent. On va se déplacer chaque jour pour se procurer du pain, pour acheter le journal. On admettra de faire quelques centaines de mètres, pas plus. En revanche, pour rendre visite au médecin, on pourra éventuellement se déplacer sur quelques kilomètres. Et puis, si on veut acheter un piano, on fera facilement une centaine de kilomètres pour aller voir le marchand dans la grande ville. Inversement, les producteurs, ceux qui offrent les services, ont aussi des contraintes de rentabilité qui font que ils ont besoin d'exercer leur profession sur un volume de clientèle suffisant pour assurer la rentabilité du bien ou de la production du bien ou du commerce qu'ils offrent. Et donc, le jeu de cette portée maximale que les consommateurs acceptent de parcourir et puis du volume de clientèle nécessaire qui donne un seuil d'apparition aux différentes fonctions, eh bien cela va conduire, nous dit Cristallère, à une hiérarchie de niveaux de centres qui vont offrir des biens de portée différente et qui vont être d'autant plus nombreux que le bien a une portée faible. Donc par exemple, les centres qui sont figurés ici par un petit point ont une zone d'influence limitée au cercle qui s'étend autour d'eux, et ils se trouvent dépendre, entrer donc dans la sphère d'influence d'un centre plus grand qui, vous le voyez, va lui aussi avoir une zone d'influence grossièrement circulaire. Et comme deux centres offrant le même niveau de service entrent en concurrence, eh bien, au lieu d'avoir des cercles qui se recouvriraient, les zones d'influence sont supposées hexagonales. Et donc, on a tout un réseau d'hexagones qui va ainsi être défini par 4, 5, 6 niveaux de zones d'influence emboîtées les unes dans les autres. Alors, Walter Cristallère a proposé des modèles géométriques de hiérarchie théorique associés à différents principes, un principe de marché qui minimiserait la distance à parcourir pour les consommateurs et qui rendrait donc maximale le nombre de centres. Donc dans ces cas-là, il a calculé des rapports entre le volume de clientèle d'un centre de niveau supérieur et le volume de clientèle d'un centre de niveau inférieur. Ce rapport est de l'ordre de 3. Et puis, comme ce système serait très coûteux en voie de communication, on peut en imaginer d'autres où les sommets des hexagones, ici, vont en fait, les villes placées au sommet des hexagones, sont un peu déplacées vers le côté, de manière à se trouver sur le chemin qui relie directement deux centres de niveau supérieur. Et dans ce cas-là, le rapport des volumes de clientèle entre deux niveaux de centre est de l'ordre de 4. Et puis, il y a des cas de figure où un hexagone doit se trouver non pas partagé entre des hexagones de niveau supérieur, mais emboîté. C'est le cas des circonscriptions administratives qui ne peuvent dépendre que d'un seul centre de niveau supérieur et pas se trouver partagé entre deux centres concurrents, comme dans le cas des services commerciaux. Et dans ce cas-là, on a par exemple un principe administratif qui aboutit à un rapport de 7 entre deux niveaux de centres successifs. Alors, toutes sortes d'études ont montré que, suivant les pays, suivant les régions étudiées, eh bien, on trouvait effectivement des rapports, des ordres de grandeur de niveaux de centre dans des rapports oscillant entre 3, 4 et 7, mais qui n'ont jamais, bien sûr, ni la configuration géométrique exacte qu'on peut observer dans un espace qui serait parfaitement homogène, ni la fixité du rapport entre les niveaux qu'on peut avoir dans ces hiérarchies théoriques. Cristallère lui-même le savait bien, puisque voilà la carte qu'il a tirée de l'étude empirique qu'il avait faite des régions de l'Allemagne du Sud, alors entre qui allait jusqu'à Strasbourg, Munich, Francfort, Stuttgart, etc., Nuremberg. Et vous le voyez, on a grossièrement, bien sûr, des semis de villes assez régulièrement espacées avec des zones d'influence plus ou moins circulaires, mais on n'est pas tout à fait dans les formes hexagonales, on est parfois plus proche du pentagone, du triangle ou du losange. Donc la géométrie doit composer avec les irrégularités de la géographie. Alors, ces modèle géométrique et cette conception d'une hiérarchie des niveaux de centre appuyée sur l'idée d'un recours au service très fortement contraint par la distance. C'est une théorie qui est une des théories fortes de la géographie et qui, très largement, rend assez bien compte des processus qui ont structuré les réseaux urbains, les systèmes de villes, pendant des durées assez longues, puisque, par exemple, quand l'INSEE pratique ce qu'on appelle l'inventaire communal, qui consiste à interroger les secrétaires de mairie sur les commerces et les services présents dans leur commune, et à demander également à quel endroit les habitants de chaque commune se rendent pour se procurer les biens ou les services qui ne sont pas présents dans leur commune. Eh bien, vous le voyez, on voit se dessiner, lorsque un trait relie chacune des communes à la commune qui est habituellement fréquentée par les habitants, on voit se dessiner des zones d'influence globalement circulaires autour des principaux centres et qui sont hiérarchisées. Par exemple, ici, la zone d'influence de Toulouse est nettement plus grande que celle des petites villes voisines. La carte que la DATAR a récemment publiée des aires urbaines, qui comporte également ces indications tirées de l'inventaire communal, nous redonne à peu près le même schéma. Et les notions élaboré par Cristaller et par les géographes en termes de réseau urbain pour décrire les hiérarchies urbaines, pour énumérer les différentes fonctions qui caractérisent chaque niveau de ville, eh bien ces travaux théoriques ont été très largement utilisés en pratique aussi. Par exemple, lorsque on a défini dans les années 60 la politique des métropoles d'équilibre, on a procédé auparavant à une étude assez exhaustive des différents types de services, d'équipements, de commerces que l'on trouvait dans les différentes villes françaises afin de sélectionner la dizaine de métropoles présentant les plus hauts niveaux d'équipements et sur lesquels on pourrait appuyer des politiques de développement régional. De même, la théorie des lieux centraux a également servi de référence lorsqu'il s'est agi d'établir des colonies nouvelles, par exemple dans les polders néerlandais, pour essayer de prévoir quel était le nombre et l'espacement des centres que l'on devait installer. Alors cette théorie, malgré tout, ne nous donne qu'une image assez figée d'un système de ville et elle donne une explication assez partielle de ce qui peut en expliquer les régularités, puisque cette explication repose essentiellement sur les services à la population, donc à une population dispersée autour des centres, une population rurale qui est desservie par les villes. Or, à l'époque même où ces théories étaient élaborées, se produisaient des bouleversements importants dans la géographie des villes, comme l'apparition des villes industrielles avec leurs nébuleuses de corons et de villes extrêmement spécialisées. L'exode rural vidait peu à peu les campagnes de la population pour concentrer celles-ci essentiellement dans les villes. Et puis, de plus en plus, les villes développaient des relations non plus seulement avec la région qui les entourait, mais de plus en plus avec des destinations lointaines, donc des relations qu'on dit en réseau, en connexité, et non plus en continuité, en contiguïté. Et donc, pour rendre compte d'autres interdépendances qui existent dans les systèmes de ville, eh bien, il fallait étudier ces transformations et trouver des cadres théoriques plus large, qui puisse englober la théorie des lieux centraux, mais incorporer aussi ces nouveaux phénomènes. Alors, la réflexion des géographes est partie d'une régularité qui avait été constatée et encore pendant assez longtemps mal expliquée, qui était celle d'une très grande universalité de la distribution des tailles de ville. Alors c'est une... on fait appel un peu ici à des notions de statistiques pour représenter sur des graphiques qui portent en ordonnée la population des villes et en abscisse leur rang par ordre décroissant. Et le fait que les villes se disposent sur une droite, sur un tel graphique, correspond en fait à une forme de distribution statistique extrêmement dissymétrique qui est proche de ce qu'on observe quand on étudie la distribution des revenus dans une population et qu'on appelle une distribution de Pareto ou une distribution log normale et qui caractérise en fait les systèmes de villes, donc où on a à la fois toujours très peu de grandes villes, un peu plus de villes moyennes, énormément de petites villes, et donc une progression géométrique inverse de la taille des villes au fur et à mesure que le nombre des villes est plus grand. Ou encore, si vous voulez, le nombre des villes suit une progression géométrique inverse de leur taille. Alors, c'est une forme de distribution statistique extrêmement répandue, mais qui est aussi caractéristique de tous les systèmes de villes, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur durée. Par exemple, ici, on a le cas du Brésil, qui montre à peu près la même forme. On a le cas de l'Australie, avec des contrastes entre les dimensions des villes plus forts qu'au Brésil, mais la forme générale est la même. On a des variantes qui sont liées à l'histoire du peuplement. Par exemple, ici, entre les États-Unis, l'Inde, l'Italie ou la France. Alors, cas particulier de la France avec cette disproportion extrême entre la dimension de Paris, proche de 10 millions, et celle de la deuxième ville, qui est de l'ordre de 1,2 million. Et ce rapport entre la population parisienne et la population de la deuxième ville, qui est un rapport de l'ordre de 1 à 7, et bien finalement, ou de 7 à 1 plus exactement, ce rapport n'a guère évolué depuis plusieurs siècles. Donc il va falloir expliquer cela, et cette explication, on va la trouver, en fait, dans un modèle statistique de croissance urbaine développé par le statisticien Gibra, qui appelait loi de l'effet proportionnel un processus de croissance relativement identique mais avec des fluctuations aléatoires d'un ensemble de villes conduisant à terme, au bout d'une durée longue, à cette forme de distribution que nous venons de voir. Donc on explique la forme de la distribution de la taille des villes à un moment donné par un processus qui l'a engendré et qui est un processus de croissance dans lequel les villes croissent toutes plus ou moins à la même vitesse, mais avec des fluctuations aléatoires. Alors ce processus ressemble assez à ce qu'on observe. J'ai ici, par exemple, une carte qui nous montre le développement du système des villes européennes sur plusieurs siècles et qui, vous le voyez, au fil des siècles, nous montre bien cette expansion distribuée du système qui croît dans toutes ses parties, qui s'enrichit par un nombre de villes de plus en plus grand, mais qui garde, vous le voyez, une configuration assez semblable sur toute cette très longue durée qui a vu beaucoup de bouleversements économiques et sociaux et techniques, mais on garde des proportions à peu près semblables entre les différentes parties du système, et bien tout cela parce que toutes les villes participent de cette croissance généralisée. Et l'interprétation géographique que l'on peut donner de ce modèle statistique de croissance, qui explique aussi la forme de la distribution des tailles de villes, eh bien, c'est que les villes sont les unes par rapport aux autres dans des relations de concurrence. Elles sont, alors, concurrence pour, d'abord pour l'occupation du territoire, lorsqu'elles se faisaient la guerre pour élargir leur fief, concurrence pour l'accaparement des ressources agricoles produites par ce territoire, et puis, au fil du temps, avec l'irruption de l'industrie et d'autres types de relations, concurrence pour des positions dans des réseaux de production, d'échanges de plus en plus lointains. Et cette concurrence entre les acteurs qui sont présents dans les villes et qui à la fois produisent des innovations pour les vendre dans les réseaux d'échange et tirer parti donc de ces productions nouvelles, eh bien, elle s'explique par le fait que très tôt, les villes sont connectées les unes aux autres. Elles sont toujours en situation les unes par rapport aux autres. On circule entre les villes et les informations passent. Et ces informations sur ce qui se fait ailleurs, ce qui se pratique ailleurs, donnent lieu à des imitations de la part des acteurs qui font qu'une ville va acquérir petit à petit les nouvelles techniques, les nouveaux types de produits qui ont été inventés par d'autres. Et elle va elle-même développer certaines inventions qui, à leur tour, vont se diffuser. Donc cette diffusion généralisée des innovations dans les villes qui font partie d'un même territoire, d'un même système, elle a commencé bien avant que ces villes ne soient connectées toutes ensemble par les réseaux très denses de routes, de voies ferrées, de téléphones que nous connaissons aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est d'abord développé de proche en proche par des concurrences locales, une ville voisine limitant le développement des villes les plus proches et le surveillant. Et puis, petit à petit, donc de proche en proche, on comprend que les systèmes de ville se soient ainsi développés dans toutes leurs parties, suivant cette loi de l'effet proportionnel ou, si l'on veut, de l'expansion distribuée dans toutes les parties du système. Alors, cette expansion n'est toutefois pas exactement stochastique, aléatoire et complètement proportionnel comme le prévoit le modèle de Gibra. En effet, si on regarde sur une région un peu plus détaillée, ici le midi de la France, qui comprend donc la vallée du Rhône et la région autour de Toulouse, en Midi-Pyrénées, on a ici une représentation de l'expansion distribuée. En 1831, donc avant la grande révolution industrielle, un réseau de villes avec leur taille, et on fait croître les cercles proportionnellement à la taille de population, et on observe, on a cette impression d'une diffusion de la croissance dans toutes les parties du système qui touchent aussi bien les grandes villes qui se développent que les plus petites qui croissent également. Si je donne une représentation qui maintenant correspondrait un petit peu à l'hypothèse de Gibra, c'est-à-dire toutes les villes se développent à la même vitesse. À ce moment-là, je vais garder la même taille de cercle pour figurer la population la plus grande, par exemple, à la date initiale, en 1831, et la population la plus grande à la date finale. Et normalement, je devrais avoir la même image au début et à la fin de la période si toutes les villes s'étaient développées au même rythme. Vous voyez qu'il n'en est rien et que entre le début et la fin de la période, on a une accentuation très forte des contrastes entre les tailles de villes. Les grandes villes sont relativement plus grandes et les petites relativement plus petites. Et ce phénomène qui est en partie prévu par Gibra, est en fait, dans la réalité, bien plus intense, bien plus prononcé que le modèle stochastique ne le prévoirait. C'est donc qu'il y a d'autres effets dans l'espace géographique qui contribue à hiérarchiser les systèmes de villes, à rendre les tailles de villes de plus en plus contrastées. On l'observe aussi sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui des villes européennes au cours des précédents siècles. On a là une image de l'expansion distribuée. Et si je reprends le même procédé cartographique que tout à l'heure, en ayant dès le départ les grandes villes calées sur le plus grand cercle et ce grand cercle ne bougeant plus, eh bien on voit qu'à la fin de la période, hein, en particulier à partir du XVIIIe siècle, il y a un contraste croissant entre les tailles de villes qui correspond à cette hiérarchisation du système. Les villes les plus grandes sont plus grandes qu'elles ne devraient être et les plus petites qu'elles ne seraient si elles s'étaient développées au même rythme que les autres. Alors, on a pu mettre cette observation de la hiérarchisation croissante des tailles de villes en relation avec deux processus. D'une part, avec le processus de diffusion des innovations, qui certes se propagent, ont tendance à se propager dans tout le système des villes. On voit que les transformations urbaines, si vous pensez par exemple au phénomène des technopôles, on avait deux ou trois technopôles dans les années 60-70, maintenant il y en a une trentaine. Toutes les villes ont construit des palais des congrès, elles ont toutes essayé d'avoir des gares TGV. Bon, il y a donc une tendance à l'imitation, à la diffusion des innovations, et toutes les transformations qu'on a pu observer au cours des 40-50 dernières années dans les villes françaises montrent que progressivement se sont modernisés tous les petits commerces, tous les services, jusque dans les petits chefs-lieux de canton. Il y a donc une très grande tendance à cette diffusion. Mais cette diffusion est hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle touche d'abord, prioritairement, les grandes villes, qui ont à la fois le plus de chances de voir apparaître les innovations, et puis qui, en général, sont les mieux équipées pour se les approprier. Et du fait de cette avance dans le processus, eh bien, il y a une part plus grande du bénéfice retiré de l'adoption de l'innovation qui contribue à renforcer l'avantage initial des grandes villes et donc à dynamiser leur croissance. Et on le voit sur les tendances longues, les grandes villes ont tendance à réaffirmer, à maintenir leur position et à croître un peu plus vite que les petites. Et alors il y a un deuxième, donc ça se produirait dans le système, une concentration par le haut. Et puis il y a un deuxième processus qui est lié à l'augmentation de la vitesse des communications et qui va provoquer au contraire une simplification par le bas des hiérarchies, une réduction du poids relatif des petites villes. Alors, il faut avoir conscience, au cours du siècle et demi, des deux siècles écoulés, de la très grande augmentation de la vitesse moyenne des communications. L'espace géographique physique immuable, la carte que nous observons, en fait, a beaucoup changé. On se déplaçait à 5 km à l'heure, jusque 5 ou 10 km à l'heure, jusque au chemin de fer. On est passé ensuite à des vitesses de l'ordre 40-60 km à l'heure, et on est aujourd'hui à des vitesses qui dépassent en moyenne les 150 km à l'heure si on prend en compte les villes qui peuvent être connectées et rejointes par avion. Alors on peut en donner une image assez spectaculaire si on se demande ce que ça veut dire en termes de l'espace dans lequel les villes sont en interaction, dans lequel elles sont connectées. Donc, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, si on représente l'espace géographique européen, par exemple, tel à une échelle définie par la vitesse des circulations, on a une Europe qui a cette dimension. Arrivent les diligences et les chemins de fer au milieu du XIXe siècle et tout se passe comme si l'Europe avait rétréci quand on la cartographie en termes de distance temps et non plus de distance physique kilométrique. si on considère l'irruption des automobiles dans les années 1950, à l'échelle toujours du temps de parcours, on a une réduction encore plus forte. Et puis si on ajoute les avions, on est cette fois-ci carrément sur la tête d'épingle. Donc tout s'est passé en fait comme si les villes que nous avons l'habitude de voir immobiles s'étaient trouvées considérablement rapprochées les unes des autres. Et dans cette opération de rapprochement entre les villes, eh bien, les petites étapes intermédiaires sont perdantes. Regardons par exemple cette reconstitution des étapes sur le trajet Paris-Cherbourg telle que faite par Anne Bretagnol. C'est pas très net, enfin peu importe si on ne discerne pas les noms des villes. En tout cas, ce qui compte, c'est le nombre des étapes qui correspond ici au parcours des diligences. Ici, lorsque les trains arrivent avec leur vitesse relativement lente au milieu du 19e siècle, le nombre d'étapes est divisé par deux. Il est encore considérablement réduit par les trains express. Et aujourd'hui, on n'a plus d'arrêt entre Paris et Cherbourg lorsqu'on prend l'avion. Cela entraîne sur les tailles des villes, alors qu'elles ont toutes l'air de se développer, des réductions relatives du poids des plus petites villes, alors qu'on voit bien ici entre Paris et Cherbourg, vous voyez que la taille relative des cercles est beaucoup plus contrastée aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du siècle. Et même si on enlève Paris, dont le poids est évidemment écrasant dans l'affaire, on voit bien cette simplification par le bas, cette réduction tendancielle très forte du poids des petites villes qui caractérise l'évolution des réseaux urbains. Toutes ces observations ont été réunies dans des modèles qui nous ont permis de simuler le devenir des villes. Alors, ces modèles rapproche la dynamique des systèmes de villes de la dynamique d'autres systèmes ouverts, observés par exemple en physique, en chimie ou dans le vivant, et qui sont des systèmes constitués d'un très grand nombre de particules, si vous voulez, qui, à d'autres échelles, produisent des structurations présentant au cours du temps certaines persistances et certaines transformations. Donc dans le cas des villes, on relie la persistance de la structure d'ensemble à l'adaptation, aux ajustements permanents des villes aux transformations intervenues dans les autres villes et à leur propre anticipation de ces transformations. Ces ajustements donc conduisent à des petites fluctuations de la position relative des villes dans le système, et lorsque ces transformations correspondent à de grands cycles d'innovation qui touchent préférentiellement certaines villes, comme par exemple la révolution industrielle qui a touché les villes possédant des gisements, la révolution touristique, si on peut dire, qui a essentiellement concerné les villes littorales ou les villes de haute montagne, ou bien aujourd'hui ce qu'on appelle la mondialisation et qui touche principalement des villes en position de connexion dans les réseaux mondiaux, donc les métropoles et éventuellement les technopoles. À ce moment-là, on a des effets de sélection qui vont dynamiser plus particulièrement un sous-ensemble de villes et contribuer à une transformation plus ou moins rapide du système. Alors, ceci entraîne des trajectoires de villes dont on dit qu'elles ne sont pas linéaires. J'ai par exemple ici l'évolution comparée de Montpellier et de Nîmes dans l'absolu, et puis en valeur relative, en termes de poids dans le système des villes, eh bien, ces deux villes qui, pendant tout le XIXe siècle, n'ont pas été touchées, ou très peu, par la révolution industrielle, Nîmes un peu plus que Montpellier, étaient relativement déclinantes par rapport au reste du système urbain français. Et à partir des années 50, Montpellier a connu une reprise de croissance, donc une évolution typiquement non linéaire, alors que Nîmes demeurait dans le même type de trajectoire. Donc, on a utilisé des modèles avec des équations différentielles, je vous en fais grâce, qui permettent de simuler ces retournements et qui dépendent, bien entendu, des différents cycles urbains que l'on peut être tenté de reproduire. Je vais simplement vous montrer un exemple de simulation avec un modèle qui utilise un type de modélisation informatique assez souple qui autorise à la fois des règles quantitatives et qualitatives qu'on appelle les systèmes multi-agents qui commence par définir un espace, un territoire avec de la mer, des montagnes, des fleuves ou des frontières et puis des localisations potentielles pour les villes et qui, au bout d'un certain temps, construit un système de villes différencié, hiérarchisé. Avec des centres donc, qui se sont inégalement développés, même si on a là aussi une expansion distribuée, et avec plusieurs formes possibles, selon les simulations, selon les interventions qu'on a faites dans le système, on va obtenir un système relativement polycentrique, comme celui-là, ou bien un système complètement monocentrique, comme celui-là. Et on peut donc, par exemple, avec de tels modèles, essayer de reconstruire le système très monocentrique, très correspondant à la centralisation territoriale française, ou bien, au contraire, un système plus polycentrique comme celui qui a pu se développer en Allemagne. Avec de tels modèles, on est donc à même, éventuellement, de donner quelques cadres pour la réflexion ou d'encadrer certains futurs possibles qui permettent de répondre à des questions qu'on se pose aujourd'hui à propos des politiques territoriales concernant les villes. Par exemple, lorsque on constate la tendance actuelle à la métropolisation qu'on lie à l'ouverture internationale des échanges, à la mondialisation de l'économie, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit en fait d'un nouvel épisode, d'une tendance observée déjà auparavant dans les systèmes de villes, qui correspond au début d'un cycle d'innovation et qui se traduit en général par une dynamisation des plus grandes villes. Vraisemblablement, on peut s'attendre à ce que cette dynamisation se diffuse ensuite dans le reste du système, mais peut-être pas jusqu'à tous les niveaux de ville. D'où une question sur l'avenir des villes petites et moyennes. On a vu que, tendanciellement, le progrès de la vitesse des communications avait eu tendance à les court-circuiter, à les faire relativement péricliter par rapport aux autres, même si la croissance économique et l'élévation du niveau de vie ont permis malgré tout de les équiper, il reste qu'elles se sont développées moins vite que les grandes villes et les métropoles. Alors, est-ce que l'avenir des villes petites et moyennes est le même que celui que nous avons connu au cours du siècle écoulé pour les villages, qui s'est traduit par un déclin relatif et absolu de leur importance? Est-ce que il ne faut pas, si on souhaite préserver cette richesse de patrimoine qui est très caractéristique de l'Europe, qui a une longue histoire d'urbanisation, est-ce qu'il ne faut pas une politique extrêmement volontariste et soutenue d'aide au maintien de ces villes petites et moyennes si on souhaite éviter la tendance prévisible de leur déclin relatif? S'agissant du meilleur système, eh bien, ayant vu la très grande dépendance et stabilité, métastabilité historique de la forme des systèmes de villes dans le lien qu'elles ont eu historiquement avec la constitution géopolitique des territoires, on se dit que peut-être le système allemand a certains avantages en termes de partage des fonctions entre les villes par rapport au système français, mais que n'en coûterait-il pas pour passer de notre système au système voisin ? Et vraisemblablement, même s'il faut résister aux tendances centralisatrices pour soutenir le développement des autres villes sur le territoire français, il n'est guère imaginable qu'on puisse passer, en tout cas sur un temps relativement court, à une autre forme de système de ville. Alors, j'ai l'air d'avoir développé une théorie inspirée de la physique et très mécaniste, ou en tout cas qui ne laisserait guère de marge de manœuvre aux finalités individuelles, aux décisions et aux acteurs, comme par exemple ces acteurs que sont les maires. Puisque j'ai montré que finalement le développement des villes s'exerçait dans l'ensemble sous de très grandes contraintes qui sont celles du système des villes auxquelles elles appartiennent. Ceci dit, il reste que si rien n'est fait dans une ville pour l'adapter en permanence à ce qui se fait ailleurs, pour proposer des nouveautés, des innovations qui sont susceptibles de maintenir, de contribuer à maintenir et à améliorer la position de la ville dans le système, eh bien, il est certain que la ville périclitera. Donc, le fait de constater à l'échelle du système des villes ces phénomènes d'organisation, de cohérence et d'évolution coordonnée de l'ensemble des villes ne remet absolument pas en cause le fait que, à l'échelon géographique de chaque ville, l'action individuelle, l'action des entrepreneurs, l'action des décideurs, des collectivités territoriales et plus généralement de l'ensemble des citoyens est bien sûr très importante pour définir et maintenir le rôle et la qualité des villes dans l'ensemble du système. Je vous remercie pour votre attention.
Bien, des micros vont circuler dans la salle. Si vous voulez poser des questions, est-ce que vous pourriez lever les mains? En attendant que le micro arrive. Allez, voilà. Ici.
Oui. Vous nous avez parlé du développement des villes petites, moyennes et grandes, mais apparemment dans un cadre européen. Vous ne nous avez pas parlé du développement des mégapoles. Du type Mexico ou Bombay, développement qui paraît devenir totalement ingérable. Et est-ce que vous pensez que ce développement pourrait être celui de Paris, par exemple, un jour ou l'autre ?
Alors c'est une question, effectivement, j'ai pour simplifier, traité de système dans un cadre territorial relativement homogène, ce qui permet d'utiliser une mesure de comparaison des villes qui est par exemple la quantité de population. Il est certain que quand on compare des systèmes différents, il faudrait tenir compte d'autres évaluations comme par exemple le poids économique des villes qui varie beaucoup entre deux systèmes. La caractéristique de l'urbanisation des pays en développement, c'est qu'elle a été plus tardive et beaucoup plus violente, beaucoup plus rapide que celle des pays actuellement développés. Et cela s'est traduit, comme vous l'avez signalé, par un très fort développement des grandes villes qui sont devenues des mégapoles, des villes typiquement de plus de 10 millions d'habitants. Et ces grandes villes sont relativement plus disproportionnées par rapport aux autres villes du territoire des États qu'elles ne le sont dans nos systèmes développés. Mais cela n'empêche pas que l'ensemble des villes de ces États se développent également très rapidement. L'urbanisation se fait aussi dans toutes les parties du territoire, même s'il y a ces décalages entre le poids des très grandes villes et celui des villes petites et moyennes. Et donc, je ne pense pas que les processus soient fondamentalement différents. On a d'ailleurs vérifié, en étudiant l'urbanisation de l'Inde, de l'Afrique du Sud, qui sont des pays extrêmement différents, et la géographie générale des systèmes de villes, avec ses principes généraux tels que je les ai exposés aujourd'hui, tient se vérifie assez dans ces systèmes très divers. Alors, est-ce que Paris peut devenir une mégapole? Bon, pour cela, il faudrait que nous connaissions une croissance démographique qui aille bien au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, qui est très faible. Et il faudrait alternativement envisager, par exemple, ce qui est assez peu probable, des migrations importantes en provenance soit d'autres pays, soit des autres pays européens. On voit que la taille des grandes villes en Europe est relativement moins importante, toutes choses égales par ailleurs, que la taille des grandes villes aux États-Unis. L'urbanisation américaine, plus récente, qui s'est produite à une époque où les voies de communication permettaient de circuler à des vitesses plus élevées, a produit des contrastes plus forts entre les tailles des villes et des villes beaucoup plus grande que celle que nous avons en Europe, où l'histoire d'urbanisation est beaucoup plus ancienne et où donc, si vous voulez, le processus d'urbanisation a utilisé tout le semis, tout le réseau des petites villes préexistantes et qui tendait à se maintenir. Donc pour toutes ces raisons, je n'imagine pas qu'en tout cas à court terme puisse se développer une mégapole sur le territoire de l'Europe.
Sur votre gauche. J'ai été frappé par la ressemblance des courbes de distribution des villes en fonction de leur taille, du nombre de villes en fonction de leur taille, avec les courbes de distribution des tremblements de terre en fonction de leur intensité. Et je voudrais savoir quel est le rôle que jouent dans la distribution les théories de la percolation, notamment. Et j'ai une deuxième question. Vous avez parlé d'enjeux de démocratie locale. Et ne pourrait-on pas ouvrir ces simulations aux citoyens pour qu'ils puissent jouer ces simulations?
Merci pour ces questions. Alors sur la première, la forme de la distribution, c'est vrai que cette distribution très inégalitaire est une distribution banale qu'on trouve dans beaucoup de systèmes, beaucoup de types d'observations. Et par elle-même, elle ne veut rien dire. C'est pourquoi on a commencé à lui trouver de l'intérêt quand on a pu la mettre en relation avec un processus générateur, ce processus de croissance. Et ce processus de croissance, on peut le confronter, tel qu'il est énoncé théoriquement, à des observations sur de grands ensembles de villes observées dans l'histoire. Et c'est cela que nous avons trouvé intéressant. Et on peut également l'expliquer ensuite par des considérations de plus théoriques qui sont de l'ordre des processus réels, si l'on veut, d'interaction entre les villes. Donc je ne pense pas, on ne peut pas partir seulement de la forme d'une distribution statistique pour inférer la totalité des processus, et ça n'aurait pas de sens puisque, comme vous l'avez dit, une même distribution peut correspondre à des phénomènes et des processus de nature très diverse. Sur les questions de démocratie locale, bien sûr, nous souhaiterions que les modèles que nous avons développés puissent être utilisés. Alors, comme vous le savez, il faut un certain temps pour passer du prototype développé en laboratoire, qui est toujours programmé avec des bricolages un peu inexportables, à des modèles qui soient opérationnels et utilisables par des utilisateurs plus nombreux. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on aimerait beaucoup envisager parce que, en retour, l'expérimentation pratiquée, soit par des étudiants, soit par des citoyens, peut apporter beaucoup aux chercheurs en produisant des cas de figure inédits, en apportant des remarques nouvelles. Et ça, on est assez demandeur, en effet.
Vous avez parlé d'un volontarisme avant tout local, si j'ai bien compris, c'est-à-dire vous avez donné l'exemple des maires, donc c'est bien un volontarisme qu'on pourrait appeler local. Est-ce qu'à l'échelon national, voire mondial, est-ce qu'on pourrait concevoir un volontarisme qui tienne compte d'ailleurs des avantages et des inconvénients de chaque taille de ville? Parce qu'il est certain qu'il y a des avantages et des inconvénients partout, donc il faudrait peut-être les recenser. Et en fonction de ces recensements, voir quelles sont les solutions optima vers lesquelles on doit se diriger.
Alors, vous avez raison de souligner que chaque taille de ville a ses avantages et ses inconvénients. On a vu que, comme elle procède de ce processus historique de croissance, il n'y a pas de taille optimale pour une ville. Et à chaque instant, chaque taille est susceptible d'offrir au développement économique ou à la vie quotidienne, à l'agrément de la vie quotidienne, certains avantages que n'offriront pas éventuellement les autres tailles. Donc, préserver la diversité des tailles de ville, certainement. Essayer d'éviter les inconvénients majeurs liés par exemple à une urbanisation trop rapide et mal maîtrisée, non suivie d'assez d'équipements collectifs, comme c'est le cas dans les périphéries de certaines très grandes villes, en particulier dans le tiers-monde actuellement, c'est effectivement une politique que beaucoup d'États ont entrepris de suivre en favorisant par exemple le développement dans les zones rurales, en essayant d'empêcher que les migrations ne se produisent directement vers la plus grande ville, mais trouvent des exutoires dans le développement de petits centres intermédiaires de taille moyenne. Et par exemple, en Inde, il y a toutes sortes de politiques pour l'équipement industriel ou administratif de ces petits centres intermédiaires. Bon, nous avons connu en France, avec les métropoles d'équilibre, les villes moyennes, même les contrats de pays, ce genre de politique régulatrice qui essaye d'éviter une trop grande, enfin les effets jugés un peu néfastes de la trop grande concentration. Mais ces effets demeurent et on est amené à leur résister continuellement, c'est parce qu'ils représentent une tendance lourde, on pourrait dire, de l'évolution des systèmes de ville. Ceci dit, on n'est pas encore assez savant pour imaginer un système de ville optimal, une solution vers laquelle on aimerait faire converger les évolutions, parce qu'on n'a pas assez de connaissances quant à la manière d'habiter un territoire qui, à un moment donné, rendrait le meilleur service. Et probablement, ce qui compte, c'est de garder une très grande flexibilité et souplesse, parce que on l'a vu, il y a des accidents, il y a des transformation des atouts des villes suivant les époques, suivant les innovations techniques, suivant les lieux où le développement se propage. Et on doit donc, dans l'ignorance où nous sommes, de ce qui serait un modèle normatif, garder, je crois, plutôt le souci de la flexibilité, de la diversité, qui sont les garants de l'adaptabilité du système dans son ensemble. Donc c'est ce que j'appelle la géodiversité, qui permet finalement, sur des temps historiques assez longs, à un système de ville de faire face pour le territoire dans lequel il est implanté, de faire face à toutes ces transformations et de les absorber, on va dire au mieux, en l'absence d'alternatives connues.
Oui, question banale, mais je crois que tout le monde y pense un petit peu. Bon, on a toujours besoin d'équipements sportifs, mais si on pense au télétravail avec toutes les nouvelles technologies, Internet et compagnie, qu'est-ce qui va en être de ces belles théories? Est-ce qu'il n'y a pas une change complète de la donne?
Alors, on pourrait imaginer un renversement complet, bifurcation dans le système, retour à la campagne, redispersion. Et bien sûr, certains n'ont pas manqué de développer ces thèmes qui peuvent paraître effectivement évidents dans la mesure où les villes représentent des solutions pour permettre l'échange entre le plus grand nombre possible de personnes. Elles permettent de développer des interactions sur un espace dense et sous une forme très concentrée. Donc, si on a les moyens de pratiquer ces échanges à distance et avec une très grande puissance et une très grande diversité, comme c'est le cas avec Internet, pourquoi ne pas imaginer une redispersion? Alors, il faut souligner, là encore, je crois que l'histoire peut nous servir de modèle, du moins de garde-fou. On avait déjà émis de telles hypothèses au moment de l'invention des chemins de fer. Certains théoriciens avaient imaginé que le chemin de fer allait permettre de percoler dans les territoires ruraux et d'éviter l'exode rural dont on mesurait déjà à l'époque les effets néfastes et donc irriguerait la totalité du territoire. Bon, ça ne s'est pas produit, il y a eu les effets sélectifs que l'on sait. À propos d'une invention moins solidaire d'infrastructures lourdes comme celle du téléphone, on avait également pensé qu'éventuellement le téléphone pourrait se substituer à la rencontre. Ça n'a pas été le cas et loin d'empêcher la mobilité, au contraire, on constate une corrélation entre le développement des échanges téléphoniques et le développement des déplacements. Alors, nous sommes dans une période où le nomadisme devient, se généralise, mais il semble que les nouvelles formes de télécommunication n'aient en rien ralenti notre soif d'échange en coprésence. Donc, on peut-être ne pas suivre ceux qui pensent à cette bifurcation violente que subiraient les systèmes, en tout cas pas dans l'immédiat. Et puis on peut souligner aussi qu'il y a d'autres processus qui contribuent à la pérennité des systèmes de ville, et en particulier toutes les infrastructures physiques que nous utilisons dans le quotidien et qui ne sont guère déplaçables à court terme, en tout cas pas sans coût très élevé. Donc là aussi, pour toutes ces raisons, j'ai peut-être l'air très passéiste, mais je ne crois guère à une révolution dans l'immédiat en termes d'une redistribution, d'une rediffusion, redispersion des populations. Je crois qu'on va continuer encore pendant quelques décennies au moins à observer des phénomènes de concentration, comme c'est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle avec l'ouverture mondiale.
Bonsoir Madame la rectrice. Selon le géographe Walter Kristaller, la formation des villes serait presque spontanée puisque leur espacement obéit, dit-il, aux activités et aux besoins de la population. Cette théorie semble ignorer certains aspects. En effet, en Europe comme ailleurs, le pouvoir central n'a jamais hésité à favoriser le développement de certaines villes au détriment d'autres pour en faire de véritables capitales locales avec pour souci majeur de mieux administrer le pays. Dans les colonies, par exemple, des villes ont été artificiellement créées pour apparemment mieux encadrer administrativement ou politiquement, voire militairement, des populations réputées turbulentes. On est donc loin de la théorie de Walter Kristaller selon laquelle la formation des villes découlerait des seuls principes du marché. Qu'en pensez-vous ? Je vous en remercie.
Eh bien, Walter Kristaller ne mentionnait pas que le principe de marché comme justification de l'émergence des villes, puisqu'il avait également mentionné ce principe d'administration que j'ai rappelé. Et donc il avait une vision, je crois, plus large que celle très libérale à laquelle on réduit parfois ses théories. D'ailleurs, il a lui-même, dans des circonstances politiques qu'on peut éventuellement condamner, présidé à des installations colonisantes de villes nouvelles dans certains territoires en Pologne. Mais le phénomène de création de villes par le pouvoir politique à partir de rien, ou le phénomène qui tente à favoriser le développement de certaines villes par l'institution administrative ou l'implantation du pouvoir d'une capitale, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours existé mais qui, par rapport à l'évolution de l'ensemble des villes, je dirais, est relativement marginal. On peut dénombrer les villes qui ont été créées de toutes pièces. D'ailleurs, certaines n'ont pas toujours été des succès, comme pensez par exemple à Richelieu, qui ne s'est jamais développé autant que son auteur l'aurait espéré. Donc, il y a une incidence certaine d'un pouvoir politique fort et central sur le développement de certaines villes, mais c'est rarement entièrement déterminant et sur de très longues durées. Je pense que c'est un facteur parmi d'autres de développement urbain et que les systèmes de villes, d'ailleurs, même lorsque les territoires politiques ont changé de configuration, ont continué à évoluer, ont maintenu les proportions qu'elles avaient développées à une certaine époque historique. Pensez par exemple au rapport entre la dimension de Vienne et le territoire autrichien actuel, qui sont un peu décalés et qui correspondent à une situation historique autre, bien plus ancienne. Donc il y a une certaine liberté, je dirais, du développement des systèmes de ville à l'égard du volontarisme politique. Et c'est d'ailleurs ce qui rend si difficile la mise en application des politiques urbaines, parce que là aussi, bien souvent, les acteurs locaux ont leur mot à dire face au pouvoir central qui souhaiterait imposer le développement de telle ville plutôt que de telle autre.
Si on regarde l'évolution démographique de la France depuis un siècle et demi, on voit que si la France avait suivi une évolution semblable par exemple à celle du Japon, ou peut-être un peu moins, un degré moins comme l'Allemagne, la France serait peuplée de plus de 200 millions de personnes aujourd'hui. Et je ne pense pas que cet écart par rapport aux petits 60 millions d'actuels se serait tous retrouvés à Paris, ce qui m'étonnerait fort. Donc ça veut dire que nos capitales provinciales auraient été des grandes villes comme celles du Japon ou de l'Allemagne. Donc force est de constater qu'il n'y a pas eu d'action politique maintenant visant un tel développement, ne serait-ce que par imitation de ces pays avancés. Et en même temps, on a vu avec le développement des chemins de fer comme des autoroutes, pour prendre un exemple plus récent, encore une fois, une concentration sur Paris qui rabat sur Paris une population provinciale au lieu de créer des liaisons entre grandes villes provinciales. Donc, manifestement, il y a un manque de volonté politique visant à répartir harmonieusement la population. Il me semble que ça saute aux yeux. Alors, dans ces conditions, comment pouvez-vous parler d'un éventuel volontariat, tout en étant vous-même, vous l'avez dit, pessimiste que sur les quelques dizaines d'années qui viennent, c'est ce qui me paraît contradictoire. Donc, comment verriez-vous surgir tout d'un coup un volontariat qui irait à l'encontre de 150 ans de politique ?
Eh bien, le volontarisme, je pense qu'il a existé lorsque on a pris conscience de ce contraste énoncé par Jean-François Gravier sous l'appellation Paris et le désert français. Il y a eu, malgré tout, une réelle volonté politique de rééquiper un certain nombre de villes, de métropoles, de provinces. Alors, bien entendu, en termes de construction des chemins de fer, le mal était fait. Mais quand on construit des infrastructures lourdes comme les chemins de fer, on n'a pas vraiment le choix en termes d'investissement privé ou public. Les tronçons les plus rentables sont ceux qui sont le plus fréquentés, et les plus fréquentés sont nécessairement entre les villes qui sont déjà les plus peuplées, et donc très souvent il y a un effet de renforcement positif entre les infrastructures qui permettent une bonne accessibilité et puis les dimensions des villes qui les appellent. Alors ça n'est pas parce que vous me dites pessimiste, ou en tout cas j'espère lucide, parce que j'observe, je constate qu'il y a des tendances très fortes et très lourdes à la dynamique un peu spontanée de ces systèmes, mais ça n'exclut pas précisément un volontarisme politique très fort pour au moins résister aux tendances, sinon les corriger ou les renverser complètement. Et ces tendances émergent, par exemple, à l'échelle européenne, dans un document qui s'appelle le schéma de développement de l'espace communautaire, qui est un peu un document d'aménagement du territoire à l'échelle européenne, est préconisé une politique de développement urbain polycentrique qui tendrait à favoriser des centres dans la périphérie de l'Europe et pas seulement, comme c'est la tendance spontanée actuelle, dans cette dorsale très densément urbanisée et riche d'activités qui va de Londres à Milan. en passant par le, toute l'Europe rhénane. Donc, je pense qu'une bonne observation des tendances permet précisément de mesurer ce qu'il faut de volonté politique pour, sinon transformer, du moins éviter le renforcement de déséquilibre qu'on ne juge éventuellement pas souhaitable.
Tout à l'heure, vous avez parlé de modélisation stochastique des villes. Que pensez-vous de l'apport de la géométrie aléatoire et du calcul des probabilités à la modélisation des villes et de la voirie ?
Pour la voirie, vous dites ?
Pour les villes ou pour la voirie ?
Oui. Eh bien, en fait, l'aléa dans ces types de modèles permet de modéliser, en l'encadrant dans des hypothèses, tout un ensemble de processus qu'on n'est pas capable d'énumérer en détail. Hein, par exemple, toutes les initiatives individuelles, toutes les décisions des entreprises ne peuvent pas être prises en compte quand on modélise une croissance urbaine. Alors on va faire des hypothèses sur le rythme qu'elles ont, sur leur variabilité éventuelle d'une ville à l'autre, et puis en fonction de ces hypothèses, on va faire croître le système, donc avec des aléas, et suivant, après un certain nombre de simulations, on va être en mesure d'examiner quelle est l'importance des écarts entre les tailles des villes, quel est le degré d'inégalité qui a pu se créer. Donc on va pouvoir, en jouant avec les hypothèses, assorties de ces aléas qui mesurent en fait l'étendue de notre ignorance hein, et du détail des processus, on va pouvoir disposer de cadrages à l'échelle de l'ensemble des villes qui ont une certaine probabilité d'être plausibles, on va dire, pour rester prudent.
Je vous remercie.